France Inter, il est 19h. C'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir, Sébastien.
Bonsoir à tous. Les blouses blanches, main dans la main aux urgences. Les médecins rejoignent la grève, lancée il y a 6 mois pour plus de moyens. Précision et témoignage dès le début du journal. Le lycée est scruté en cette rentrée avec la réforme du bac en 2021. Les élèves découvraient profs et copains. Aujourd'hui, les choses sérieuses débutent demain. Nous sommes du côté de Nogent, dans l'Oise. Au sommaire également ce soir, l'ouragan Dorian, moins puissant, rétrogradé de 5 à 4. Mais des victimes et des dégâts aux Bahamas. 2 décrocheurs de portraits présidentiels en procès à Lyon. L'histoire de ce judoka iranien qui veut fuir son pays. Et au téléphone sonne Fabienne,
et bien nous aussi, la rentrée aussi. Et absolument, pour nous aussi c'est la rentrée. On va explorer les relations parents-enseignants qui se sont dégradées ces dernières années. Un ton parfois déplacé de certains parents, une ingérence dans les cours. Est-ce que tout ça s'est permis? Il arrive aussi que ça tourne très mal quand les enseignants sont accusés ou harcelés même. Comment renouer ces fils-là et partir d'un bon pied en cette rentrée? 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils sont en grève depuis presque 6 mois et ils reçoivent donc un soutien de poids. Les services d'urgence sont rejoints dans leur mouvement par les médecins. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Ça n'aura pas d'incidence concrète dans les urgences saturées, mais c'est un renfort symbolique.
Oui, d'autant que ça ne concerne pas que les médecins urgentistes, mais différents syndicats de jeunes médecins, de généralistes, de psychiatres qui appellent à rejoindre la mobilisation car ils font tous, disent-ils, le constat d'une dégradation des conditions de travail et de la qualité des soins. Ce sont, selon le collectif Interurgence, 233 services, soit près de la moitié de ceux du service public qui sont en grève. C'est cette union au sein de l'hôpital que souligne ce soir dans ce ralliement le docteur Christophe Prudhomme. Il est délégué CGT, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne.
C'est la formalisation d'un soutien des médecins à ce mouvement. Nous n'avons pas déposé encore formellement de préavis national, mais ce qui risque de se faire dans les jours qui viennent. C'est l'expression de la colère des personnels, de l'agent hospitalier aux médecins. Ce que ça montre à la ministre, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'elle espérait qu'il y ait un pourrissement du mouvement, une partie non négligeable des médecins soutient le mouvement et soutient les mêmes revendications.
Et ces revendications portent toujours sur davantage de personnel, un arrêt de la fermeture des lits dans les services qui ne permettent plus de désengorger les urgences, et pour le personnel soignant, des demandes sur les salaires qui vont bien au-delà des 100 euros de prime proposés pour l'instant par la ministre de la Santé. Demain, des membres du collectif sont auditionnés par la mission qui doit remettre un rapport sur les urgences en novembre. Mais manifestement, l'ensemble du personnel trouve cette échéance beaucoup trop lointaine et veut peser plus fort dès maintenant.
D'ailleurs, la CGT a prévu une journée d'action mercredi prochain, la semaine prochaine, avec un appel à la grève dans les hôpitaux publics et privés et une manifestation à Paris. Merci Daniel Messager.
Il y a ceux qui ont découvert la maternelle.
Ceux qui ont fait leur entrée en sixième, les grands qui attaquent le lycée, les familles où les enfants sont à tous les niveaux à la fois. Il y a des choses à raconter ce soir pour un peu plus de 12 millions d'élèves. La rentrée des classes après l'été en pente douce, les copains qu'on retrouve, le prof de maths qu'on ne voulait pas avoir, les mardis trop cool où on finit à 15h. On a tous connu ça, mais cette année, il y a du neuf avec le bac, nouvelle formule dans 2 ans, sans les filières littéraires, éco et scientifiques. Alors voyons comment s'est passée la rentrée au lycée. Lycée polyvalent Marie Curie de Nogent-sur-Oise, c'est donc dans l'Oise. Filière générale, technologique et professionnelle. 2000 élèves et la rentrée d'abord Sonia Princet pour les secondes.
Les petits nouveaux du lycée avaient le sourire à la fin de leur première matinée. Ce qui les a impressionnés, l'immensité des lieux et ce petit vent de liberté qui souffle désormais sur eux, comme l'expliquent Hugo et Narimen.
C'est grand, il y a beaucoup plus de monde en classe et on est 36, alors qu'avant on était 24.
Ça change énormément du collège du coup. Déjà on a le droit à beaucoup plus de liberté, on peut sortir et rentrer quand on veut. Au début j'étais un peu stressée, mais je me suis assise, je suis allée dans ma classe. Déjà j'ai un peu galéré à la trouver, mais après ça s'est bien passé. Je ne me suis pas encore fait de copine, mais on verra par la suite.
Les élèves ont aussi découvert ce qui les attend avec la réforme du lycée, mais ce sont leurs camarades de première les plus concernés cette année. Ils vont tester les nouvelles spécialités, c'est le cas de Kevin.
C'est vrai que ça peut paraître un peu inquiétant au début, mais je pense qu'on est quand même pas mal soutenu et pas mal suivi au cours de notre parcours. Donc je pense pas qu'on va nous lâcher et qu'on va nous dire débrouillez-vous. Et je pense qu'on va quand même bien nous suivre et bien nous expliquer en détail au fur et à mesure ce qu'on attend de nous. Et donc j'ai pas tellement d'inquiétude là-dessus.
Les élèves ont été plutôt chouchoutés aussi pour cette première journée. Les cours démarrent véritablement demain après-midi. Les choses sérieuses vont commencer.
Alors, il n'y a pas que la réforme du bac parmi les autres nouveautés de la rentrée. Il y a aussi le passage de l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans et la poursuite de la baisse du nombre d'élèves dans les classes des quartiers défavorisés. Des chantiers et des reproches qui vont avec pour le ministre de l'Éducation. Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Sébastien.
Jean-Michel Blanquer qui multiplie les sorties sur le terrain depuis plusieurs jours, mais qui marche aussi sur des œufs.
Oui, vous savez, au début d'un quinquennat, il y a toujours des chouchous, des premiers de la classe ou de cordée. Eh bien, au début de l'année 2018, c'était clairement lui le chouchou au sein du gouvernement. Jean-Michel Blanquer et son insolente popularité, 62% à l'époque, à faire pâlir d'envie tous ses collègues. Et bien aujourd'hui, et c'est l'Institut Odoxa qui le mesure, la courbe s'est inversée et plus d'un Français sur deux émet une opinion négative. Des angoisses sont nées de la réforme du lycée. La crise du bac en juin est passée par là, avec ce bras de fer inédit entre le ministre et des correcteurs grévistes. Faut-il y voir un signe ? Ce matin, dans un CE1 de Clichy-la-Garenne, le Premier ministre s'est affiché avec Jean-Michel Blanquer, apologie de son bilan.
Ce qui est important, c'est ce qui se passe ici, dans cette salle. Il y a quelques années, il n'y avait pas 11 ou 12 enfants par classe. Il y en avait plutôt 22. Et vous voyez, entre ces progrès-là et les commentaires, eh bien, je préfère ces progrès-là.
Clairement, le ton a changé. Un Blanquer au diapason de la méthode douce, désormais impulsé par Emmanuel Macron. 300 euros de plus par an sur la feuille de paie. Négociations sur la retraite des enseignants. Des réformes annexes repoussées, comme celle du calendrier des vacances scolaires. Et des syndicats qui ont porte ouverte au ministère. Un changement tout relatif, tempère les proches de Jean-Michel Blanquer. On sait qu'on entre dans le dur, dit un conseiller. Mais on préfère la réforme au sondage.
Yael Gauz et la rentrée. C'est aussi le sujet du téléphone. Sonne donc à 19h20. Fabienne.
Absolument, les relations parents-prof, des plages, comme sur les cartes postales.
Des palmiers au bord de l'eau transparente, des villas de rêve et des hôtels de luxe. L'image qu'on a des Bahamas, l'archipel de 700 îlots à moins de 100 km des côtes de Floride, où seules une quarantaine sont habitées. C'est là que l'ouragan Dorian vient de passer tout doucement, en attendant de poursuivre peut-être vers la Floride. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Il est passé de 5 à catégorie 4 il y a 2 heures, mais les vents à près de 300 km/h ont fait de gros dégâts aux Bahamas.
Oui, des dégâts que le Premier ministre, Hubert Ministre, a qualifié tout à l'heure sur Twitter de sans précédent. Et ce message du chef du gouvernement confirme ce qu'on a vu dans les premières images qui ont pu nous parvenir des Bahamas, maisons arrachées, toitures envolées, puis surtout des inondations spectaculaires par endroits. L'eau a grimpé jusqu'à 6 ou 7 mètres. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan humain, c'est ce que disait tout à l'heure un autre responsable gouvernemental, le ministre des Affaires étrangères, Darren Enfield, confiné lui aussi sur l'île d'Abaco.
On nous a dit qu'il y avait des victimes, des corps ont été vus. On ne pourra pas le confirmer avant de pouvoir sortir et se rendre compte par nous-mêmes. Ici, on tient dans le bâtiment gouvernemental que nous avons transformé en abri improvisé. Tous les autres abris ont été d'une manière ou d'une autre endommagés. Durant les dernières 2h30, nous étions dans l'œil du cyclone. Et les gens ont réussi à venir ici pour y être en sécurité. On tient le coup. On vous demande juste de continuer à prier pour nous.
Et les médias locaux ont pour l'instant rapporté un décès, celui d'un petit garçon de 8 ans. Également sur cette île d'Abaco, voici Bruce, un habitant, joint tout à l'heure par la chaîne américaine ABC.
Certaines maisons sont complètement explosées, il y a des arbres partout sur les routes. On ne pourrait même pas évacuer si on voulait le faire maintenant. Tout est déchiré, c'est comme si une bombe avait explosé. En ce moment, j'essaye de vérifier si mes amis vont bien, leur famille. Les fenêtres se courbaient sous la force du vent, les portes aussi. J'ai cru que notre toit allait s'envoler. Cet ouragan n'est comparable à aucun autre. Je n'ai jamais eu peur d'une tempête, mais là, j'étais terrifié.
Alors qu'il est, Dorian se trouve encore au-dessus de l'archipel, précisément au-dessus de Grand Bahama. C'est la dernière île avant la Floride. Certes, les vents ont un peu faibli, mais l'ouragan fait quasiment du surplace, progressant d'un kilomètre par heure. Vous imaginez, Sébastien, la masse d'eau qui se déverse sur le territoire. Ensuite, eh bien, l'ouragan va prendre la direction des États-Unis et s'approcher de la Floride demain après-midi ou demain soir.
Oui, et c'est l'inquiétude, évidemment, sur les côtes américaines. Merci, Grégory. Floride, donc, Géorgie et Caroline du Sud ont déjà décrété l'état d'urgence et des évacuations obligatoires, même si les cartes montrent a priori que Dorian devrait longer seulement l'Amérique sans la frapper de plein fouet.
Le Grenelle des violences conjugales s'ouvre demain.
Alors que 100 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, peut-être une 101e même hier dans le Tarn, une femme de 92 ans retrouvée par sa fille. Son mari est suspecté, il est hospitalisé en psychiatrie. Ces victimes nous obligent, disent les associations qui parlent du rendez-vous qui s'ouvre demain et jusqu'à fin novembre comme d'un moment charnière, mais qui en attendent aussi du concret. Elles veulent actuelle, des moyens multipliés par 5 par rapport à ceux d'aujourd'hui. Anne-Cécile Maillefer est la présidente de la Fondation des femmes. Elle est avec Thibault Lefèvre.
Le gouvernement doit ouvrir les vannes budgétaires pour faire en sorte que dans tous les ministères, il se passe des choses. Si jamais il y avait une solution qui était miracle et qui coûtait rien, elle aurait déjà été mise en place. On ne veut pas une opération de com, on ne veut pas un énième grand plan. C'est un problème qui est gravissime, qui demande la mobilisation de plusieurs ministères et qui demande surtout des moyens pour qu'ils aient la possibilité de mettre en place ce qui a été voté. Donc, pour que les lois puissent être appliquées, pour qu'il puisse y avoir des téléphones grave danger partout, pour qu'il puisse y avoir des bracelets électroniques, pour qu'il puisse y avoir des policiers, pour qu'il puisse y avoir des juges, il faut qu'il y ait des moyens, il faut que l'État ait des moyens. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de vider l'océan à la petite cuillère, avec 3 bouts de ficelle, avec 80 millions. C'est complètement dérisoire par rapport à la masse des violences faites aux femmes qu'il y a dans notre pays. On ne veut pas faire d'économie sur les vies humaines. S'il y a une seule chose à faire, c'est de donner des moyens aux politiques publiques pour pouvoir faire face au drame que des centaines de milliers de femmes sont en train de vivre en ce moment en France.
C'est le principe de la solidarité des gens de mer qui nous a guidés. Une compagnie de ferry a secouru des migrants la nuit dernière en Méditerranée. Un bateau de la Corsica Linea qui assurait la liaison entre Alger et Marseille. Il a porté secours à 18 personnes qui étaient sur un petit bateau en panne, Marie-Christine Loriol. Les migrants ont été débarqués à Majorque.
L'obligation de prêter assistance est une règle incontestable du droit de la mer. C'est ce principe de solidarité qu'a appliqué le commandant du Méditerranée en portant secours aux 18 personnes en détresse. 18 migrants, dont des mineurs candidats à l'exil vers l'Europe et qui dérivaient à bord d'un petit bateau à moteur en panne d'essence quand ils ont croisé cette nuit la route du ferry. Rapidement hissés à bord, ils ont aussitôt été examinés par le personnel médical qui a précisé que leur état de santé était relativement bon. Vraisemblablement originaires d'Afrique du Nord, les 18 migrants ont été débarqués dans la journée dans le port espagnol d'Alcudia à Majorque, le port sûr le plus proche conformément à la réglementation internationale. Parti d'Alger, le navire de la Corsica Linea avec ses 2000 passagers a repris sa route pour Marseille où il devrait arriver demain. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Inter.
Et au large de Santa Barbara en Californie, c'est un bateau de tourisme qui vient de couler après un incendie. Il y avait 39 personnes à bord, des personnes qui partaient faire de la plongée. 34 d'entre elles sont portées disparues. 5 membres d'équipage ont pu être secourus. C'est devenu une habitude depuis février dans les mairies. Des partisans de la désobéissance civile décrochent des portraits d'Emmanuel Macron pour protester contre sa politique. Certains de ces portraits étaient d'ailleurs présentés à l'envers en marge du G7 il y a 10 jours encore à Biarritz. Sauf que ces militants risquent 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende pour vol en réunion. Plus de 150 personnes entendues, près de 60 procès d'ores et déjà prévus, avec des relax ou des amendes parfois fermes à la clé. Procès de 2 d'entre eux aujourd'hui à Lyon, en présence de nombreux soutiens écologistes, Mathilde Imberti. Leur action remonte à février dernier, à la mairie du 2e arrondissement.
À la barre, les deux prévenus assument leur action collective du 21 février dernier. Décrocher le portrait du président pour sensibiliser l'opinion publique. J'ai mis ma liberté en jeu, plaide Fanny Delahalle, qui milite pour le mouvement Action non violente COP21.
La population française aujourd'hui, elle entend les beaux discours de notre président qui a l'air de tenir la situation totalement sous contrôle par rapport au climat, alors que la réalité est tout à fait différente. Et aujourd'hui, on nous emmène vers 3 à 4 degrés de réchauffement, ce qui représente un cas sur Terre.
Cécile Duflot témoigne en faveur des prévenus. Il n'y a aucune volonté politique, dénonce l'ancienne ministre, aujourd'hui à la tête d'Oxfam France. Des militants écologistes plus anonymes ont fait le déplacement. Philippe vient de Nantes.
Les deux personnes qui sont ici, ainsi que les, 57 autres qui vont être jugés ou qui l'ont déjà été, ont pris aussi des risques personnels. Il s'agit de désobéissance civile non violente. Il faut prendre des risques. Effectivement, ce sont des actions illégales, ils le savent, mais elles sont légitimes.
Face aux défis environnementaux, enlever une photo de président ne résout rien. C'est le point de vue du procureur qui requiert 500 euros d'amende pour vol en réunion. Quant au portrait dérobé à Lyon, il se balade, précisent les deux militants au tribunal, et nous le rendrons quand le gouvernement adoptera un acte fort face à l'urgence climatique. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre. Un nouvel accident mortel de trottinette électrique. Une femme de 25 ans morte ce matin à Reims après avoir été percutée hier par une voiture à un carrefour en centre-ville. Le conducteur n'avait pas bu, il dit être passé au vert. La jeune femme portait des écouteurs avec peut-être de la musique assez fort d'après le procureur. Et ceux qui circulent dans de gros véhicules lourds qui consomment plus de carburant et polluent donc plus que les petites voitures, eh bien, l'ex-député En Marche du Maine-et-Loire proche de Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin, a une idée pour les inciter à rouler plus sobre. Dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, qui revient en nouvelle lecture à l'Assemblée, il veut proposer d'interdire les publicités pour ces gros modèles, même hybrides.
le marché de la publicité pour les voitures, c'est quelque chose de très important en France, hein, c'est 3,5 milliards d'euros par an de dépenses. Et aujourd'hui, tout le monde a pu s'en rendre compte, cet été, la publicité dans les journaux, à la télé, à la radio, la majeure partie de cette publicité, elle est faite sur les véhicules les plus gros, sur les SUV, sur les 4x4, sur d'autres véhicules très consommateurs d'énergie. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on arrive à réorienter progressivement ces publicités de voitures vers les modèles les moins consommateurs d'énergie, parce que ce sera les moteurs les moins polluants, mais ce sera aussi évidemment des gains de pouvoir d'achat pour les citoyens sur les pleins d'essence. Et puis d'un autre côté, point de vue de la puissance publique, réfléchissons à comment effectivement on peut indirectement ou directement inclure le poids des véhicules dans le calcul des bonus-malus.
Le député Mathieu Orphelin avec Cécilia Arbona. Cette histoire maintenant à cheval entre sport et diplomatie internationale, celle de l'ancien champion du monde iranien de judo en moins de 81 kilos, il s'appelle Saed Molaï. Il avoue qu'il a volontairement perdu en demi-finale la semaine dernière aux Mondiaux de Tokyo sous la pression de Téhéran pour éviter de croiser ensuite un adversaire iranien. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
Molaï est parti directement de Tokyo pour Berlin. Il ne veut plus rentrer en Iran. Il ne supportait plus, dit-il, la pression.
Le champion du monde des moins de 81 kilos a fait face à une pression effectivement incroyable. Quelques minutes avant son quart de finale seulement, l'entraîneur de Saed Molaï a reçu un appel de son pays. Au bout du fil, le ministre des Sports adjoint lui intime l'ordre de retirer son compétiteur des championnats du monde pour éviter de rencontrer plus tard l'Israélien Mouki, explique aujourd'hui sur son site internet la Fédération internationale de judo. Dans un premier temps, Molaï continue. Il se qualifie pour les demi-finales en éliminant le champion olympique russe en titre. Juste avant la demi-finale, un autre coup de fil du président du comité olympique iranien lui indique cette fois que les services de sécurité sont au domicile de ses parents et des SMS de ses amis lui expliquent que des personnes ont demandé à son père de faire pression sur lui pour qu'il respecte la loi de son pays qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Cette version confirme les propos du judoka qui déclarait hier soir avoir perdu deux combats à cause de cette forte pression. Le second pour la médaille de bronze, afin de ne pas se retrouver sur le podium avec l'adversaire en question. Une affaire suivie en temps réel par la Fédération internationale de judo. Aujourd'hui, Saed Molaï ne veut pas rentrer à Téhéran, où il estime ne plus être en sécurité. Il a peur pour lui et pour sa famille. La Fédération internationale de judo, qui lui apporte son soutien, lui a promis de tout faire pour qu'il participe au prochain JO de Tokyo dans un an. Elle pourrait prendre cette Fédération internationale des sanctions à l'encontre de la Fédération iranienne. Le CIO suit également de très près cette affaire.
Ce n'est pas terminé et on suivra donc nous aussi également avec vous. Merci Fabrice Rigobert. Quelques notes de musique pour terminer. Un accord qui vous dit quelque chose, Fabienne. Hein.
C'est signé dans le temps en fait, ces choses-là.
Chercher le garçon, premier tube sur le premier album de Taxi Girl, vous l'aviez reconnu, c'est en 1980, 300 000 singles écoulés à l'époque. Eh bien c'est Laurent Sinclair qui l'avait en partie composé ce morceau, il était le clavier du groupe de Daniel Darc et de Mirwais notamment. Laurent Sinclair est mort la nuit dernière à Paris. La fin d'une époque, chercher le garçon, Taxi Girl 1980.
Absolument.
On a dansé dessus.
Absolument, Sébastien, beaucoup. C'est bien avec les mains, les pieds joints, les mains comme ça.
C'est ça.
Sébastien Pauvre, merci beaucoup. À demain. Le téléphone sonne, c'est dans un instant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Et Sébastien Léas, encore une journée ensoleillée au programme de demain.
Oui, on prend les mêmes et on recommence. Pas ou peu d'évolution pour demain, puisque c'est encore le soleil et le ciel bleu qui vont dominer sur le pays. On verra juste quelques fins nuages élevés circuler dans le ciel. Le long de la Manche, le temps sera un peu plus variable avec de belles éclaircies et quelques passages nuageux, voire quelques grisailles matinales. En Corse et sur les Alpes du Sud, des averses sont attendues. Ces averses se produiront essentiellement sur le relief demain après-midi, mais elles pourront être orageuses. Et puis sur les régions méditerranéennes, le Mistral et la Tramontane soufflant encore entre 60 et 70 km par heure. Le risque d'incendie va donc rester très important.
Un peu plus de douceur aussi l'après-midi, mais l'ambiance est fraîche le matin.
Oui, les maximales gagneront quelques degrés demain après-midi, affichant 20 à 29 degrés et jusqu'à 34 degrés autour de la Méditerranée. Prévoyez par exemple 22 degrés à Calais, Rouen et Saint-Malo, 24 degrés pour Paris, 25 degrés à Angers, Besançon, Nancy et Biarritz, 26 à Grenoble, 29 à Agen et Bastia et 32 degrés à Perpignan et Aix-en-Provence. En revanche, demain matin, au lever du jour, les températures seront parfois sous les 10 degrés sur une large moitié nord.